Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bien voilà les amis, 13h36, vous êtes sur Immo et Territoria, on est ravis d'être avec vous et nous allons tranquillement conclure ce 84e congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Je vous rassure, j'étais pas là au début. Non, je serais un peu décrépit quand même. Merci en tout cas d'être avec nous. Nous allons conclure et on ne pouvait pas mieux conclure finalement et débriefer ce 84e congrès de l'Union sociale pour l'habitat avec une grande dame de l'immobilier qui est avec moi sur le plateau. C'est Valérie Fournier. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Comment ça va ?
Bien, très bien.
Vous êtes directrice générale de 3F. Merci d'être avec nous, une personnalité influente. J'ai envie de vous poser cette question, Valérie, pour démarrer cette interview. Et merci d'avoir pris le temps de passer par le plateau de Territoria et d'Immo. Le sentiment, voilà, c'était blindé de monde pendant deux jours. C'est fou, incroyable. Alors qu'on s'attendait peut-être à un peu moins de fréquentation. Je sais que les organisateurs ont déjà dit qu'ils avaient dépassé de plus de 10% le taux d'audience. C'est juste phénoménal. Comment vous l'avez vécu ?
D'abord, je pense qu'effectivement, c'est un 84e congrès qui est une vraie réussite. Et je pense que cette affluence, elle traduit deux choses. D'abord, le fait que les organismes, en tout cas leurs dirigeants, leurs salariés, ils aiment le congrès parce qu'ils ont l'occasion de se retrouver, d'échanger, de voir aussi leurs partenaires. Et ça, c'est très important pour nous et je pense que c'est très important pour nos métiers. Et puis la deuxième chose, qui est peut-être aussi une chose importante, c'est qu'on a été très résilients ces dernières années, les organismes HLM, et notamment, par exemple, en ce qui concerne les ESH, on a continué à construire. On est encore en augmentation normalement de nos agréments cette année. On a réhabilité, on fait notre ANRU. Donc je pense que pour l'écosystème, à un moment où la crise du logement et la crise quelque part potentielle du bâtiment existe, je crois que cette résilience des organismes, elle arrive au bon moment et que cette présence au congrès montre aussi le fait que nous pouvons être un levier pour reconstruire une politique du logement durable.
Alors enfin, nous avons une ministre du logement. Et pas n'importe laquelle, donc du coup le choix était plutôt judicieux. Valérie Létard a été nommée ministre du Logement et de la Rénovation Urbaine. Et depuis le premier mandat présidentiel d'Emmanuel Macron, c'est le premier ministère de plein exercice. Elle fait partie des 16 ministres sur les 38 ministres qui ont été nommés de plein exercice. Faut-il entrevoir peut-être la possibilité que Valérie Létard, qui est plutôt appréciée de la profession, dont je rappelle qu'elle a piloté la loi ZAN notamment, qu'elle était proche de l'ANRU, qu'elle est proche de Jean-Louis Borloo, qui a été un grand ministre du logement, qu'elle aime le logement social et qu'elle est préoccupée par le logement des Français, faut-il y voir là finalement des signes très positifs de reprise, alors même que quand on voit les chiffres, on passe très très bon. Je pense aux agréments bien évidemment qui ont des taux aussi bas. Je pense qu'on ne pourra peut-être pas forcément descendre plus bas. Je pense bien évidemment à la crise de la construction de logements neufs dans une perspective où les Français aujourd'hui sont assez désespérés sur le logement. Je prends un exemple de chiffre sur les dépenses contraintes du logement, c'est qui a été publié par l'INSEE. En deux ans, on est passé de 18,1% de charges contraintes sur le logement à 26% en deux ans. Ce qui démontre en fait la gravité du problème. Est-ce que vous espérez également qu'elle, Valérie Létard, aura gagné quelques arbitrages pour relancer la machine ?
Je pense que ce qu'on a dit et ce qu'on a effectivement dit dès l'annonce dimanche soir de la nomination de Valérie Létard, c'était que c'était une bonne nouvelle pour le logement pour plusieurs raisons. D'abord, certes, c'est un ministre de plein exercice et ça, c'est important parce que c'est vrai que quand vous êtes ministre délégué, vous n'êtes pas à tous les conseils de ministre, vous n'avez pas votre place et donc ça, c'est important qu'on retrouve sur le logement et la rénovation urbaine un ministre de plein exercice qui fait partie de l'équipe gouvernementale. La deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement engagé, qu'on connaît très bien, qu'on a connu au Sénat, dont on sait qu'elle porte ses engagements et que c'est quelqu'un qui est une combattante. Donc c'est plutôt une bonne chose au moment où, bien évidemment, les arbitrages sont toujours complexes. La troisième raison pour laquelle je pense que c'est une bonne chose, c'est que je pense qu'elle a positionné dans son discours d'investiture le sujet du logement à un bon niveau et à un niveau qu'on n'avait jamais eu depuis 2017. En fait, depuis 2017, on a toujours à choper parce que les équipes ont toujours pensé que le logement, c'est de l'immobilier et de la valeur immobilière. Voilà. Alors que nous, on considère que le logement abordable, mais le logement de manière générale, c'est un toit, c'est une protection, c'est une capacité à
s'épargner. C'est le premier marqueur social du foyer.
Exactement. Et donc, le fait que Valérie Létard le positionne sur le pouvoir d'achat, sur le pouvoir de vivre, c'est une autre façon d'envisager la question du logement. Et on peut peut-être espérer qu'effectivement, on sortira du débat sur l'immobilier pour faire une vraie politique du logement. Et par ailleurs, elle est d'autant plus nécessaire que même si on a aujourd'hui une zone de plein emploi, même si on a simplifié le marché du travail, nous, on porte, et on en est certain, que le marché de l'emploi, il ne marche pas sans logement, sans transport, sans ville, et que donc l'attractivité globale de la France, de son développement économique, parce que c'est aussi à ça qu'on contribue, doit marcher avec des pieds qui sont à équiter entre le logement et l'emploi ou le développement des transports, le développement de la ville. Donc je pense que Valérie Létard est quelqu'un d'apprécié, dont on connaît l'engagement. Je pense que nous, on a, en tant qu'acteurs, à faire attention à un écueil. Quand on est très en attente, on est très en demande.
Eh oui, ouais, bah oui.
Voilà.
Or, je vois tout à fait.
Or, on sait très bien que la loi de finances ne va pas être forcément le grand soir. On se rappelle aussi qu'on a aussi eu le quoi qu'il en coûte. Et donc, aujourd'hui, on a un déficit excessif en France. On ne peut pas le nier. Donc, je pense qu'il faut vraiment que nous, collectivement, pour l'aider, en tout cas, c'est ce qu'on lui a dit notamment ce matin, on est prêt à s'engager. On est prêt à prendre un contrat à 3 ans. On est prêt à rendre compte de notre action. On peut d'autant plus le faire chez les ESH que tout ce qu'on a signé, on l'a fait.
C'est très clair.
Voilà. Et on lui dit, on est prêt à jouer pour voir et non pas voir pour jouer. Voilà.
Alors,
je pense que c'est
ça. Ça, c'est une punchline de radio, bravo. Effectivement. Je ne vais pas être redondant sur des principes, mais par exemple, effectivement, l'État quand même a beaucoup ponctionné. Hein. Je vais aller sur les RLS. On va pas revenir dessus. Bon, on espère quand même que la RLS ne sera pas aggravée dans son comptable, hein, puisque je pense qu'ils ont quand même un peu abusé. Mais mine de rien, quand on fait le lien entre la RLS et les capacités qu'avait justement le logement social à investir aussi à produire du logement, on voit bien qu'il y a une corrélation directe. Quelle tâche, qu'est-ce que vous aimeriez, vous, Valérie Fournier, vous qui maîtrisez le logement social, quelle est la première chose qu'il faudrait faire tout de suite pour encourager le secteur et lui redonner confiance?
Alors, c'est certain, je suis comme les autres, la RLS, c'est 6 points d'autofinancement pour un organisme, c'est donc c'est un déficit de nos bilans d'exploitation, et donc ça a ponctionné nos capacités.
Et c'est des milliers de logements non produits.
Voilà. Exactement. Après, la RLS, c'est aussi 1 milliard soit pour l'APL, et la difficulté de cette mesure, c'est pas tellement sa suppression, c'est de savoir qui compense une aide très importante qui est l'aide au logement pour les plus défavorisés.
C'est très clair.
Donc ça, c'est une certitude. Est-ce que, bien évidemment, si elle peut l'obtenir, c'est une très bonne chose. Déjà, nous, ce qu'on a appelé, c'est au-delà de la suppression qui serait une bonne nouvelle, c'est déjà, en tout cas, un, qu'elle ne soit pas indexée, voire qu'elle baisse. Je rappelle qu'on avait signé en 2017 la RLS à 800 millions. Dans un moment où les taux étaient très faibles, donc là, on a un impact de taux du livret A très fort. Ce serait bien qu'elle puisse obtenir, peut-être pas pour 2025, mais en tout cas dans un travail à faire, une perspective de baisse de la RLS, voire de suppression. Ça, c'est certain. Après, bien évidemment, nous, on a toujours dit, les ESH, elles sont aujourd'hui très engagées et donc très endettées. Le modèle HLM, il est simple. On fait des prêts à long terme pour équilibrer nos constructions et on les rembourse. Donc, bien évidemment, pour nous, l'impact du taux du livret A, il est essentiel et majeur. Donc, on espère que très vite, on va avoir la confirmation d'une baisse du taux à minima au mois de février.
Bien sûr.
Et qu'elle soit la plus importante possible, parce que ça aussi, ça permet aux organismes de réinvestir. Et je pense que c'est d'autant plus important que l'année 2025, elle est charnière pour moi, parce que soit on travaille à refaire du parcours résidentiel, à refaire de la construction, à refaire du logement et du développement économique, et on le fera au premier semestre. À partir du deuxième semestre 2025, on rentre dans les municipales. C'est jamais le moment où on a des envolées lyriques sur la construction.
Oui, c'est clair.
Et donc, on va se retrouver avec une année qui risque d'être à nouveau blanche. Donc, il faut vraiment qu'on puisse... C'est pour ça aussi qu'on lui a dit qu'on était prêt aussi à se faire mal et à s'engager. C'est important, parce que je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà, donc il faut accepter de notre côté voilà, qu'on lui fasse confiance. Et la confiance, comme je le dis, c'est aussi accepter de ne pas avoir tout de suite tout ce qu'on veut, mais de, justement de convaincre. Et je pense que c'est aussi un sujet qu'on peut vraiment porter vis-à-vis des équipes présidentielles, de dire ok, chiche, allons-y, faisons. Les organismes HLM aujourd'hui sont en capacité de relancer de la construction. Et par ailleurs, ce que je dis aussi, c'est que on a absolument besoin d'avoir des parcours résidentiels. On a absolument besoin aussi d'avoir des gens qui sortent du parc social pour continuer leur vie dans un autre parc, voilà, ou qui accèdent à la propriété, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit pas sociale. Donc, il ne faut pas opposer les uns aux autres. Il faut une politique globale en faveur du logement, parce que cette politique en faveur du logement, elle permettra à la France de se développer, et c'est ça qui permettra d'avoir de l'argent public aussi.
Autre enjeu majeur, chantier du siècle, vous le savez, c'est la rénovation énergétique. Bonne initiative de Michel Barnier d'ailleurs d'avoir lié le logement à la rénovation énergétique, la rénovation urbaine. C'est un enjeu colossal, c'est un enjeu, vous, opérationnel, bien évidemment, chez 3F, vous y attelez tous les jours. On en est où si on fait un point à date? Alors, bien évidemment, je vais faire mon journaliste, je suis obligé. Rétropédalage excessif, +1, -1, +1, -1, avec l'ANA, difficulté effectivement de positionnement politique, effectivement, dans l'organisation de la rénovation des territoires, avec l'ADEME également. À ce niveau-là, on en est où exactement, Valérie Fournier?
Aujourd'hui, on en est où? On sait qu'effectivement, l'accord qu'on avait signé l'année dernière avec le ministre Vergriet, les fonds ont été gelés pour 2024 et a priori ne sont pas inscrits à date dans la loi de finances 2025, alors que c'était un engagement pour 3 ans et c'était 400 millions qui étaient très en dessous de ce que nous avions affiché comme besoin. Ce qui est vrai du secteur HLM, c'est que le secteur HLM, là aussi, il est vertueux, il investit, il a des plans d'action, il a des PSP, il sait où il va. Donc là aussi, on ne demande pas la lune, et on comprend parfaitement quand la ministre nous dit qu'elle n'a pas de baguette magique. On demande juste d'avoir... Nous, on a beaucoup porté, depuis le mois de janvier, le fait d'avoir un contrat clair. Moi, ce que j'attends de l'État, c'est qu'il me dise dans les 3 ans qui viennent, ce que j'attends du secteur HLM, sur 3 indicateurs. Comment je construis, comment je rénove, et éventuellement comment j'accompagne les fragilités et les parcours résidentiels. Voilà mes indicateurs. Ça, c'est normal que la nation le dise, que nous sommes financés par l'impôt des Français. Et après, nous, on fait. En fait, les organismes, ils ont cette vertu qui est qu'ils font. Voilà. Oui. Donc, on demande un contrat.
C'est des outils que vous avez. Vous avez les outils pour travailler.
Oui, et puis on est au rendez-vous des engagements qu'on prend. Bien sûr. Et donc, je pense que le sujet, ce qu'on attend beaucoup de Valérie Létard, et je pense qu'elle est capable de le comprendre et de le porter, c'est de dire, faites-nous confiance, contrôlez-nous a posteriori, et en fait, on sera tous gagnants à la fin.
C'est très clair, le message est bien passé et les enjeux sont majeurs. Je rappelle effectivement que ce sont le logement des Français, dont la perte de pouvoir d'achat et la précarité n'a cessé d'augmenter. Et j'en veux pour preuve le rapport de la Fondation Abbé Pierre qui est publié chaque année le 1er février, qui est une date anniversaire bien évidemment, bien malheureuse d'ailleurs, je précise. Et je vois le chiffre s'accroître, hein, 2 700 000 foyers sont en attente de logement, sans compter effectivement la précarité du logement et les difficultés qu'ont les Français, notamment à se rapprocher de l'emploi, hein, puisque il y a un lien direct entre le logement et l'emploi, et on peut très vite être en dessous des radars sociaux dès qu'on s'éloigne des bassins d'emploi, et c'est terrible dans une société comme la nôtre. Dernier sujet, bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous poser cette question. Vous êtes en campagne, Valérie Fournier. Pour prendre la tête de l'Union sociale pour l'habitat, je vais vous poser cette question. Pourquoi vous avez pensé entrer en campagne et quels seraient en fait les grands chantiers auxquels vous vous attelleriez justement à la tête de cette formidable organisation qui, je le rappelle aujourd'hui, dimensionne l'ensemble des actions sur le logement social des Français. Et pourquoi vous l'avez fait d'ailleurs également?
Alors, je vais essayer de répondre rapidement à toutes les questions en une. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, le mandat des MACOS arrive à échéance. La Fédération des ESH, parce que c'est les fédérations qui portent la candidature, donc la Fédération des ESH a souhaité candidater. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour témoigner que nous sommes très attachés à la maison commune qu'est l'Union sociale pour l'habitat. Même si ces dernières années, on n'a pas toujours convergé, on n'a pas toujours été unis, je pense que c'est les institutions comme les nôtres, elles sont longues à construire, elles sont très faciles à détruire, et je ne suis pas sûre qu'à la fin, on soit gagnant quand on les trouve un peu obsolètes ou vieillissantes. Voilà. Donc nous, on a voulu dire, nous avons un attachement à être ensemble. Par contre, nous constatons plusieurs choses. Nous constatons que nous avons plus de mal à nous entendre, plus de mal à nous écouter, et que c'est pour ça qu'on veut travailler autrement. En fait, on est très soumis à l'input politique extérieur, parce que le temps politique s'accélère et que finalement on a beaucoup de punchlines, donc on est très en défense. Je pense qu'il faut qu'on retrouve une façon, quand on loge 11 millions de Français, quand on a 5 millions de logements, quand on est plus de 800 organismes sur l'ensemble des territoires, on a des choses à dire sur les questions sociales, on a à faire valoir les savoir-faire des organismes, on a à expliquer que le logement social, ça n'est pas qu'une question de construction et de rénovation, c'est vraiment une question de faire société, c'est vraiment une question de citoyenneté, c'est une question de capacité à se projeter dans l'avenir. Et pour ça, il faut qu'on retrouve à la fois le chemin de travailler plus ensemble, plus sérieusement. Moi, je suis directeur général d'organisme, j'entends pas ne plus être directeur général d'organisme,
bien
donc
sûr.
Je suis pas une permanente, mais ce qui n'est pas le cas non plus des marins.
Oui.
Mais je voilà, donc je pense qu'il y a 5 présidents dans nos familles, il y a la possibilité de travailler ensemble, il y a la possibilité de travailler plus, et puis il y a la possibilité aussi de parler des sujets de société que les organismes traitent, que ce soit le vieillissement, que ce soit l'accompagnement des familles monoparentales, que ce soit les questions de sécurité, comme on l'a eu ce matin, que ce soit des questions sur l'accompagnement des jeunes. On est au cœur de beaucoup de politiques publiques, bien au-delà de l'acte de construire et de l'acte de rénover. Et c'est aussi cette place qu'on entend positionner dans le débat public, y compris vis-à-vis des pouvoirs publics, comme étant aussi un élément important. Parce que le bien vivre ensemble, pour faire société, finalement, on s'est beaucoup inquiété des dernières élections.
Mmh.
Mais ces dernières élections, elles ont montré les difficultés de la ruralité. Elles ont montré les difficultés des quartiers populaires. Elles ont montré beaucoup de difficultés, quelles que soient d'ailleurs, bien au-delà du sujet du logement d'abord ou de la sortie de rue. Et ça, c'est le cœur même de la promesse du logement social. Et c'est ça qu'on essaye, en tout cas, dans notre débat interne. Hein, c'est une campagne interne qui a pour but de dire comment on aimerait voir le mouvement fonctionner. Et en tout cas, c'est ça qu'on veut travailler.
En tout cas, c'est la preuve de la vitalité démocratique. Hein, je
Exactement.
Peux vous le dire. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'être tous d'accord, mais nous sommes dans un creuset républicain. Ce creuset permet le débat et on a le droit de ne pas être d'accord, de faire valoir ces arguments. En tout cas, ce que je retiens, c'est que vous les fédérez. Vous voulez agir plutôt que de subir, et je trouve ça extrêmement salutaire, bien évidemment, dans cette démarche. Vous avez raison de le dire, et je voudrais juste reprendre ce que vous disiez. Vous avez l'impression de subir les inputs politiques, effectivement, parce que la temporalité n'est pas la même. En fait, vous souhaitez vous reprendre la main, finalement, sur ce qui fait aujourd'hui souche, c'est-à-dire le logement des Français, dont je rappelle, et vous l'avez dit tout à l'heure, qui est le premier marqueur social des Français. Vous savez, les chiffres sont têtus. On voit la corrélation entre l'équilibre moral des Français des foyers et le logement. J'en veux pour preuve le dernier sondage d'OpinionWay qui a démontré que 26% des personnes interrogées ont affirmé ne renoncer à faire un enfant. Incroyable. Donc on veut bien réarmer la France, mais encore faut-il avoir un logement. La deuxième chose, c'est que 20% d'entre eux également ont déclaré ne pas vouloir se mettre en couple, faute de logement. Et si nous prenons les étudiants et nous prenons les jeunes actifs, ils ne trouvent pas de logement, donc ils ne trouvent pas de travail. Et donc, ce que vous faites, par ailleurs, a une résonance bien plus large que le simple fait de construire. C'est aussi le foyer, le lieu de l'intime pour les Français, les millions de foyers qui vous font confiance. Et je pense que c'est ça le message qu'il faut retenir. J'étais très heureux de vous avoir sur le plateau, Valérie Fournier. Je ne vous souhaite que des belles choses et beaucoup de réussite. Et je sais que vous êtes la personne de la situation. Voilà, il y a un pilote dans l'avion. Merci à vous, Valérie Fournier, directrice générale de 3F. Vous êtes également présidente de la Fédération des ESH.
Exactement.
Voilà, donc voilà, inutile de dire que votre agenda est quand même extrêmement chargé. Voilà, il est exactement 13h55, les podcasts sont à récupérer sur l'application de Radio Immo. Nous allons quitter ce congrès, quitter Montpellier, revenir à Paris dans nos bons vieux studios et prendre le cours de nos programmes. Je rappelle que sur l'agenda, nous avons le CIPCA, le salon immobilier bas carbone qui arrive. Nous avons le grand jury de la presse immobilière avec Yannick Borde, ça sera aussi le 24 octobre. Je serai sur BFM Business demain à 11h15 pour parler justement du congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Je vous fais un clin d'œil d'ailleurs à vous, Valérie Fournier, et j'y serai bien évidemment également samedi matin pour Parlons Immo, comme tous les samedis matins, sur Sud Radio 99.9. Voilà, salut les amis, on vous souhaite plein de bonnes choses et surtout d'ici là, prenez soin de vous.
Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.